Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous sommes le 1er janvier, c'est notre première rétro sonore de l'année. Le 1er janvier 1986, l'Espagne et le Portugal faisaient leur entrée au sein de la Communauté économique européenne qui allait devenir quelques années plus tard l'Union européenne. Alors, de l'Europe des 6 à la fin des années 50 à l'Europe des 27 aujourd'hui, l'arrivée de l'Espagne et du Portugal ce 1er janvier 1986 a été un tournant marquant. C'est notre rétro sonore avec des archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel.
Mes chers collègues, nous vivons une heure historique. Pour la première fois, les représentants de l'Espagne et du Portugal siègent parmi nous.
C'était évident, l'Europe était bancale, esthétiquement, bien sûr. Aujourd'hui, elle retrouve l'équilibre. L'Espagne et le Portugal lui fournissent l'appui méditerranéen qui lui manquait. Mieux assise, la communauté prend du poids. Ces nouvelles mensurations, 320 millions d'habitants, 50 millions de mieux, un tiers du commerce mondial, première puissance commerciale du globe, et quelques 2600 milliards de dollars de richesses produites. C'est presque aussi bien que les États-Unis.
L'entrée de l'Espagne et du Portugal restera inscrite dans les annales de la communauté européenne comme un événement considérable, dont la portée dépasse largement, dans une perspective historique, les péripéties que la communauté a vécues au cours des dernières années. Cet élargissement s'imposait comme un impératif politique qui a fini par l'emporter sur toute autre considération.
Mais l'arrivée de l'Espagne et du Portugal amène deux nouvelles difficultés. D'abord, établir une véritable solidarité entre un Nord riche et un Sud moins développé au moment où les principaux bailleurs de fonds, RFA, Grande-Bretagne et France, réclament des coupes dans le financement communautaire. Et puis, le risque que l'organisation européenne, déjà lourde à 10, ne devienne à 12, carrément pesante.
Oui, la place de l'Espagne et du Portugal est naturellement dans notre communauté. Cette communauté, mes chers collègues, est essentiellement un ensemble de peuples libres. Les peuples qui, comme l'Espagne et le Portugal, pratiquent la démocratie pluraliste, ne sont pas très nombreux dans le monde.
C'est cette Espagne-là qui fait peur aux producteurs français de fruits et légumes. Ils craignent de ne pouvoir résister à cette concurrence venue du Sud. Car l'Espagne, en plus du soleil, c'est aussi des coûts de production très bas en raison d'une main-d'œuvre bon marché. Et maintenant, avec son adhésion, l'Espagne va surmonter son principal handicap, celui des barrières douanières qui vont progressivement disparaître.
Des avantages, nous allons en avoir, car nous ne serons plus obligés de payer d'importants droits de douane comme à présent. Nous ne serons pas sujets à des contingentements pour certains produits comme les tomates et les concombres.
Le dossier des fruits et légumes est avec celui du vin le plus épineux. Cependant, pour estomper le choc et permettre aux producteurs français de s'adapter, on a fixé à 10 années la période transitoire avant que les produits espagnols ne puissent circuler librement en Europe. Si dans le domaine agricole, l'Espagne a globalement beaucoup à gagner, côté industrie, les avantages sont moins nets. Jusqu'alors, les entreprises espagnoles vivaient à l'abri de droits de douane très élevés. La fin de ce protectionnisme sera très dure pour beaucoup de secteurs industriels espagnols peu performants. Tandis que le chômage, qui est le plus élevé d'Europe, risque encore d'augmenter. Pour rattraper son retard, l'Espagne va donc devoir accélérer la modernisation de son industrie. Dans le même temps, les produits allemands, italiens et français vont pénétrer plus facilement les marchés ibériques.
L'aventure européenne a été lente et chaotique. Retour sur 50 ans d'histoire avec Michel Vial.
Le charbon et l'acier avaient alimenté la guerre au sein de l'Europe. C'est le charbon et l'acier qui serviront de moteur à la paix dès le début des années 50. En proposant la mise en commun de la production de charbon et d'acier, Robert Schuman crée la CECA, signée à Paris le 18 avril 1951. Quatre ans plus tard, en juin 1955, les six pays membres de la première administration supranationale européenne, réunis à Messine, envisagent de rapprocher les industriels impliqués dans l'atome civil et de supprimer progressivement les barrières douanières. Ces deux traités, l'Euratom et le marché commun, qui constituent bel et bien l'acte fondateur de l'Europe unie, sont signés à Rome le 25 mars 1957 par les représentants de six pays, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. L'enthousiasme de ce jour historique s'est un peu évanoui au rythme de l'augmentation des pays membres, de 6 à 27 en un demi-siècle.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.